Je suis heureux de poursuivre ce matin avec vous la série qu'on a débutée depuis un certain temps sur la lettre de Colossiens. On est au milieu, et cette lettre, et on va le redire, je crois, tout au long de ce parcours dans Colossiens, elle martèle, elle nous rappelle la centralité, la suffisance de Christ dans la vie chrétienne. Et c'est vraiment le leitmotiv de cette épître, de cette lettre. Christ suffit. En Jésus, on a tout ce dont on a besoin. Et si on a placé notre foi en Jésus, nous avons Christ dans notre vie. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher autre chose pour compléter cette vie spirituelle. Rien d'autre. Jésus répond profondément, parfaitement, complètement aux aspirations les plus profondes de nos cœurs. Et l'apôtre Paul écrit justement cette lettre pour le rappeler. Déjà à l'époque des Colossiens, ils étaient confrontés à ces enseignements de chercher plus, une expérience de plus, un événement de plus, une émotion de plus, comme si notre foi était incomplète, comme s'il fallait chercher pour que notre vie soit davantage agréable à Dieu. Et cette tentation existe encore aujourd'hui. Et donc, l'ensemble de la parole de Dieu, mais Colossiens tout particulièrement, montre que Jésus est tout ce dont on a besoin en tant que chrétien. Jésus nourrit, Jésus soutient, Jésus suffit. Alors, on l'a vu dans les deux premiers chapitres, c'était, on va dire, un peu théologique, où Paul, il a présenté tout ce qu'on a acquis en Jésus-Christ. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette lettre, il va montrer l'aspect pratique des choses. C'est pas d'abord une affaire de connaissance, mais c'est une vie transformée qui produit de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements qui sont visibles et concrets. Mais attention, c'est pas un ensemble de restrictions à faire ou à ne pas faire. Ce sont des attitudes, des habitudes de vie que nous sommes appelés à refléter, à vivre, à incarner. Parce que Christ vit maintenant en nous. J'aimerais juste prier avant de poursuivre. Seigneur, je voudrais simplement te dire merci pour ta parole, merci pour cette lettre qui a été écrite il y a déjà bien des siècles, mais elle nous rejoint dans nos réflexions, dans nos vies. Enlève ce qui, dans nos cœurs, nous empêche de te comprendre, de te saisir, de vivre pour toi. Seigneur, merci pour ce week-end de la Pentecôte où on se rappelle que tu es venu et que tu es venu habiter en nous par ton esprit. Et c'est aussi par ton esprit que ta parole prend vie, que ta parole touche nos cœurs, nos émotions, nos sentiments. Seigneur, merci pour cet esprit qui veut encore aujourd'hui nous éclairer, chacun. Seigneur, merci parce que tu veux aussi nous aider à vivre en conséquence de ce que nous sommes maintenant en toi lorsqu'on t'a accepté. Rends-nous attentifs à ce que tu attends de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que quand on est chrétien, on vit différemment. Vous l'avez vu dimanche dernier, il me semble, avec Matthieu, au début du chapitre 3. Et ce matin, l'apôtre Paul va montrer avec une image assez parlante, celle du vêtement, celui qu'on enlève, d'un changement de vêtement. On retire un ancien vêtement et on en met un nouveau. Et c'est vrai que nos habits disent beaucoup sur nous. De la même manière, le changement vécu avec Dieu lorsqu'on l'a reçu à l'intérieur doit devenir visible dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Il y a certaines choses qui doivent disparaître, donc c'est toute l'image du vêtement enlevé, des choses qui n'ont plus simplement leur place quand on connaît Dieu. Et puis il y a de nouvelles habitudes à revêtir, à cultiver, parce qu'elles reflètent Christ, celui dont on appartient. Et ce matin, on va voir ces attitudes qui sont les nôtres, qui sont appelées à être les nôtres. Et vous allez voir que c'est spécifiquement des attitudes qui sont importantes dans les interactions, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, et notamment dans l'Église. Alors l'Église, si vous ne l'avez pas compris, je le dis régulièrement, c'est un lieu. L'Église, c'est pas une activité. Dans la Bible, dans l'Écriture, l'Église, c'est un peuple, c'est des personnes, c'est une famille, c'est une personne rassemblée, c'est un corps. C'est un ensemble de personnes dans lesquelles Dieu a fait demeure par son esprit. Et quoi de plus merveilleux de pouvoir partager ce texte le jour de la Pentecôte où Par excellence, le Saint-Esprit est déversé sur l'ensemble des croyants et c'est ce qui marque, ce qui scelle cette unité. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, on est au chapitre 3 et je vous invite à lire ces quelques versets. On est au verset 9 jusqu'au verset 15. Alors si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à en prendre, il y en a à l'arrière de l'église. Donc Colossiens 3, chapitre 3, verset 9 à 15. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Jusqu'ici là, la parole de Dieu. Alors je sais pas, vous l'avez peut-être relevé, mais c'est un passage qui est dense. Il y a beaucoup de choses, riches en implications. Vous serez probablement tous d'accord avec moi, enfin je l'espère. L'église locale, l'église de Wittenheim, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est pas toujours facile à vivre, hein. On est d'accord aussi. Et je crois que c'est précisément pour cela que Paul adresse aux Colossiens, mais à nous aussi, ces exhortations pour nous aider à vivre les relations dans l'église. Et je crois que le premier niveau d'application de ce texte est pour nous dans nos relations les uns avec les autres, dans l'église ici, à Wittenheim. Et j'ai donné comme titre à ce message, un Christ est suffisant, mais quel impact sur nos relations dans l'église? Quel impact sur nos relations dans l'église? Vous l'avez remarqué, ce texte alimente un peu la réflexion aussi du mot d'ordre de cette année, de marcher avec. Notre Église peut avoir toutes les qualités du monde. Elle peut avoir une excellente théologie. Elle peut avoir une louange de qualité. Elle peut avoir des projets motivants. Elle peut être ouverte sur le monde, dans son aspect social. Elle peut organiser des groupes pour tous les âges. Et on en a pas mal dans l'Église. Mais si elle n'expérimente pas, si elle ne vit pas les attitudes qui sont présentes dans ce texte, mes amis, elle est à la côté de la plaque. Enfin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu cela. Vous l'avez vu dans le texte, il y a ces deux mouvements, se dépouiller de certaines choses et en revêtir d'autres. Et Paul ne dit pas « faites des efforts pour essayer d'atteindre quelque chose ». Il nous dit plutôt « vous êtes en Christ, vous lui appartenez, alors vivez en chrétien ». Et c'est toute la logique des indicatifs, des impératifs que Paul nous laisse dans ce texte. Tout ce que Paul nous encourage à vivre, à faire, repose toujours sur ce que nous sommes en Jésus-Christ, sur cette vie que nous avons en nous. Alors la vraie question devrait être, ce matin peut-être, à quoi reconnaît-on un chrétien? À ses habits? Du dimanche? Pendant un temps, Michel, il n'y a pas longtemps, il l'expliquait, que dans l'église, un vrai chrétien, il y avait son habit du dimanche, la cravate, le costume, la robe dédiée. Est-ce qu'un chrétien, c'est celui qui se promène la Bible sous le bras et qui se rend le dimanche matin à l'église? Est-ce que c'est celui qui est présent de façon exercitée dans la vie de l'église? Pas ces choses-là dans le texte, et mais j'aimerais relever, alors ça va vous garder éveillé, parce qu'il y aura plusieurs choses. Je voudrais vous montrer sept choses ce matin. Cette attitude, cette marqueur très concret d'une vie avec Dieu, de ce que c'est un chrétien, des attitudes qui doivent caractériser ce chrétien authentique. Et vous allez voir que ces qualités, marqueurs, sont incarnées, sont vécues, sont montrées, sont par Jésus-Christ lui-même. Alors, premier élément que je relèverai, c'est parce que nous sommes en Christ, rejetons le mensonge. Je relis, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Je propose d'abord de regarder la motivation à vivre ce principe. Paul nous décrit ce qui s'est passé lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, lorsqu'il s'est fait connaître à nous et qu'on y a répondu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je deviens un être nouveau. Il y a l'expression dans le texte d'être le vieil homme. On s'est débarrassé du vieil homme et de ses vieilles manières d'agir. Et en fait, ça désigne tout ce qui nous liait à la vie sans Dieu, à une vie orientée sur l'autonomie morale, spirituelle. Je vis ma vie comme bon me semble, sans tenir compte de Dieu. En fait, c'est ça le péché. C'est cette rébellion, c'est vivre ma vie comme si Dieu n'existe pas. Vivre en dehors de Dieu et de sa présence. Mais lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, lorsqu'on accepte ce que Dieu a fait pour nous, on est nouveau. Cette vieille nature est remplacée. L'image de Dieu est restaurée. C'est ce que dit ce texte. Et les textes grammaticaux, les temps grammaticaux sont assez clairs, c'est du passé, c'est quelque chose qui s'est accompli dans le passé. On est maintenant nouveau, né de nouveau. Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter en nous, nous transforme et nous donne un nouveau cœur, avec de nouvelles aspirations, avec de nouveaux désirs, avec une nouvelle orientation. Et depuis le début de cette lettre, Paul a écrit cela dans Colossiens. Il y a un nouveau. Il y a un nouveau toi, il y a un nouveau moi, parce que Dieu habite en toi. Et pourtant, même si l'ancien Josué est mort, il reste des anciennes habitudes, des réflexes, des manières de penser, des manières de réagir qui sont encore présents et qui continuent parfois à gêner nos vies dans le quotidien. Jusqu'au bout, nous allons batailler dans un quotidien pour que Christ prenne les commandes et que ce qui est encore de notre ancien moi, qui est un cadavre en fait, laisse sa place. Ça a perdu cet ancien moi, perd tout attrait, tout pouvoir. Mais parfois il traîne des restes. Ok, on a une nouvelle orientation de vie. Alors Paul nous dit, ne mentez pas, ne mentez plus les uns aux autres. Alors c'est ça le mensonge. C'est on ment vers Dieu, on ment vers soi, on ment vers son prochain. C'est ce qui nous caractérisait avant, notre vie sans Dieu. Nous passons notre temps à cacher nos intentions véritables. On dissimule son identité, on s'en fabrique une. Aujourd'hui sur les réseaux, on se fabrique un double. On paraît plus fort qu'on ne l'est réellement. Satan est le menteur. Et le Saint-Esprit est la vérité. Le mensonge déforme la vérité. Donc quand on appartient à Dieu, on fait partie de cette situation d'être, de vivre dans la vérité. Une des conséquences de la conversion authentique, c'est ce rétablissement d'être droit. Parce qu'en fait, on s'est reconnu comme sur la mauvaise route devant Dieu. On a besoin de la justice de Dieu dans nos paroles, dans nos attitudes. On se savait profondément au fond du trou, menteur. Ce mensonge qui divise, ce mensonge qui isole, qui ruine tant de relations. Alors on peut se dire, rejeter le mensonge, c'est donc dire ce qui est vrai. Alors dire ce qui est vrai, c'est pas dire ce qu'on pense. Dire ce qui est vrai, c'est factuel. Et d'ailleurs, c'est toujours associé à d'autres valeurs, le fait d'être juste, d'être édifiant, d'être aimant. Si je vous vois rentrer avec un t-shirt qui me plaît pas, je vais pas vous dire « Ah, il est moche !» Je dis la vérité, je l'aime pas. Non mais c'est pas une question de goût, C'est pas factuel. Ça va uniquement peut-être blesser l'autre. Avant notre rencontre avec Christ, on était tenté de porter un masque. On veut paraître plus solide, plus spirituel, plus à l'aise qu'on ne l'est réellement. Mais l'homme nouveau n'a plus besoin de se cacher. On est fait de la même pâte. Ne vous mentez plus les uns aux autres. L'idée, c'est qu'on s'engage quand on parle. On dit des choses avec vérité, avec amour. Quand on fait une promesse, on la tient. On dit les choses telles qu'elles sont. On cherche à vivre dans la droiture, dans ce que Dieu demande de vivre. Rejetons le mensonge. Deuxième élément, parce que nous sommes au Christ, vivons l'unité. Verset 11, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Alors c'est quelque chose qu'on sait, c'est spectaculaire ce qui est écrit, ce que Paul dit ici, ce que dit Paul ici aux Colossiens. On vit dans le contexte de l'Antiquité. Ce sont des propos d'une modernité incroyable, totalement à contre-courant, de toute logique d'ailleurs. À Colosse, d'ailleurs comme dans beaucoup de villes de l'Empire romain, il y avait des différences de culture, il y avait des différences de statut social, il y avait des religions qui structuraient la société, etc. Il y avait des barrières, des clans. Mais dans l'Église, Paul rappelle, il y a quelque chose de nouveau qui se produit. La conversion, la rencontre avec Dieu fait tomber tout classement de valeur. Dans l'église de Colosse, tout un tas d'individus d'origines diverses se retrouvent. Christ fait un nivellement social, on pourrait dire. Les distinctions, les différences ne sont plus un obstacle les uns envers les autres. Alors ça ne veut pas dire que toutes les différences disparaissent sous prétexte qu'on est chrétien. On le voit dans la Bible, il y a des rôles bien différents, il y a des responsabilités différentes, il y a des maturités différentes, il y a des dons différents donnés à l'Église, il y a des ministères différents, il y a des niveaux d'implication dans l'Église qui sont différents. Mais ces différences ne créent plus aucune hiérarchie de valeur entre les personnes. En Christ, on a tous le même accès à Dieu, à la même grâce, au même pardon, au même salut, à la même espérance, à la même assurance, au même Dieu, etc. Et nous sommes donc appelés à nous regarder les uns les autres comme des frères et des sœurs. Il n'y a pas de chrétien de seconde zone. Il n'y a pas de chrétien qui serait moins spirituel. Il n'y a pas des chrétiens qui seraient plus sauvés que d'autres. On a tous revêtu ce vêtement de justice. Et c'est vrai, dans le texte, il parle de juifs et de non-juifs. À l'époque, les juifs se croyaient peut-être supérieurs parce qu'ils avaient un héritage spirituel. On est descendant d'Abraham, de Moïse, etc. Les grecs, peut-être, par leur culture, leur savoir, leur sagesse, leur langue. Et dans l'Église, rien de tout cela. On est tous remplis du même esprit, on bénéficie tous du même évangile, etc. On a tous la même espérance, je ne vais pas me redire. Je crois que c'est une affirmation profondément radicale. Il y a la question de ni esclave ni libre. C'est profondément moderne. Cela nous appelle à rejeter toute forme de rejet, d'exclusion, de préjugés, de racisme, de mépris, de mise à distance. Malheureusement, aujourd'hui on entend certains qui se revendiquent chrétiens, qui se comportent avec d'autres comme s'ils étaient moins dignes de la grâce. De telles attitudes sont une offense à l'œuvre unificatrice de Christ dans les relations. On est unis par le même esprit déversé dans chacun d'entre nous, et la Pentecôte en est l'exemple par excellence. Alors c'est vrai, si on regarde, je le dis régulièrement, à la réalité de l'église locale de Wittenheim, il y a des jeunes et des moins jeunes. Des vieux, certains diraient. Il y a des intelligents et des gens qui sont émotionnellement stables. Il y en a qui sont plus fragiles. Il y a des riches et des pas riches. Il y a des vies qui ont un arrière-plan chargé, lourd, un bagage de cassures et de vies qui ont été compliquées. Et d'autres qui ont connu jusqu'à présent des vies plutôt faciles, etc. C'est tout ça, ces différences, mais on a le même privilège On a la même grâce, on a accès à la même bienveillance de Dieu. En fait, cela se nous rappelle qu'il y a une seule distinction majeure dans l'Écriture. Être en Christ ou ne pas être en Christ. C'est cela qui compte avant tout. L'humanité se divise sur ce point-là. Est-ce qu'on appartient à Dieu? Est-ce qu'on n'appartient pas? Et c'est ce qui est dramatique d'ailleurs. J'aime beaucoup cette expression hein, que j'ai soulignée dans ma Bible. Mais Christ est tout et en tous. Wow. Chaque croyant est uni à Christ. Et indissociablement, on est unis les uns les autres. Et être sans Christ, c'est au contraire être séparé du pardon, séparé d'une vie nouvelle, séparé de la vie, de l'espérance, etc. C'est pour cela que Paul nous rappelle, nous exhorte, parce que tout ce qu'on a reçu en Christ, nous sommes appelés à vivre cette unité et à rejeter tout ce qui pourrait diviser, mettre en péril cette unité. Bien sûr, dans l'Église, il faut parfois exercer la discipline, parfois de demander à quelqu'un de quitter l'assemblée parce que cette personne met en péril l'unité. Mais le texte nous présente, nous encourage. En Christ, nous sommes d'un même rang avec ce même accès. Et Dieu bâtit cette Église, son Église, avec des personnes très différentes. Gloire à Dieu. Troisième attitude, parce que nous sommes en Christ, revêtons des attitudes, je l'ai noté, de grâce. Alors là, c'est un verset aussi dense et riche. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Un verset qui, il n'y a pas de manière plus claire de montrer l'identité du chrétien. Et que cette identité impacte notre manière de nous comporter, de vivre. Vous l'avez vu, hein, Paul commence dans la première partie du verset par ce qu'on est maintenant. L'image de ce nouveau vêtement. Et ce qu'on est maintenant doit se voir d'être avec les autres. Vous êtes quoi? Choisi par Dieu. Vous êtes élu. Dieu vous a rencontré. Alors je sais que de dire être choisi par Dieu, c'est une notion qui peut déranger parfois. Mais être choisi par Dieu, c'est rien d'un privilège. C'est une grâce que Dieu nous a faite et qui nous dépasse. Si nous croyons, c'est parce que Dieu, un jour, nous a rencontrés et il a agi le premier. C'est lui qui a ouvert nos yeux sur notre besoin de lui. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous donne et qui nous appelle à la foi. Seul, nous ne pouvons pas. Tout cela reste un miracle de la grâce. C'est ça qu'on doit entendre quand on est choisi par Dieu. Qui ne dépend ni de ce que je fais, ni de ce que je faisais, ni de ce que nous aurions pu faire. Même Dieu m'a choisi en Christ. Et parce que je suis choisi, on est saint. Saint, ça veut dire, vous êtes maintenant mis à part. On ne s'appartient plus. Maintenant, vous appartenez à Dieu. Et du coup, vous êtes des bien-aimés. Lorsque Christ regarde son Église, il voit des bien-aimés. Je me dis, avec toutes nos imperfections, toutes nos erreurs, tout ce qui clopine encore chez nous, il nous regarde avec amour. Pourquoi? Parce qu'il en a payé le prix. C'est réglé. Je vous vois comme mes bien-aimés. Il n'y a plus rien entre nous. Dieu nous a délivrés et il nous a transformés, transportés dans sa famille, dans son royaume. Et parce qu'on est tout saint en Jésus-Christ, cela détermine les comportements. Et là, il y a une liste qui nous appelle à nous revêtir généreusement de quoi? De compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Toutes ces qualités se trouvent dans la personne de Christ, n'est-ce pas? Et on veut lui ressembler. Je suis d'accord que toute spiritualité un peu dans ce monde religieuse ont une liste de vertus. C'est pas propre au christianisme d'avoir de belles attitudes, de bons comportements, de bons rapports. Mais la particularité de ces qualités que Paul nous appelle à vivre, à suivre, à imiter, c'est qu'on a un modèle parfaitement dans la personne de Christ. C'est pas juste une vie morale, mais c'est vraiment des fruits que Dieu a semés dans notre cœur. J'aime beaucoup les évangiles où lorsqu'on regarde la manière dont Jésus s'est comporté parmi nous, parmi les hommes, il a rencontré tellement de situations diverses où il a montré combien il était compatissant. Il y avait des foules fatiguées devant lui et la Bible nous dit, son cœur fut serré de compassion. Lorsqu'il a vu une veuve éplorer de la perte de son fils, il était ému de compassion. Il était rempli de bonté, il est venu parmi nous pour nous faire du bien. Ça, c'est la bonté de Jésus en venant parmi nous. C'est cette main tendue à son prochain. L'humilité, compliqué, hein, pour moi particulièrement, c'est contre-culturel. Le plus fort, on doit montrer des choses, la réussite. Réaliser que quand tout vient de Dieu et qu'on s'entend dire « qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Toutes choses viennent du Seigneur. Aucune raison de se mettre, de se prévaloir, de se mettre en avant. Je le dis régulièrement, hein, mais tout ce que je reçois du Seigneur, au contact des personnes qui découvrent la foi, qui sont au balbutiement de leur vie, ils ont encore rien compris de tout le trésor, mais combien, waouh, c'est juste incroyable. Pas besoin de se prendre la grosse tête, de déballer tout ce qu'on connaît sur Dieu, de tout ce que Dieu est et tout ça. Mais quand on voit la manière dont la vie est transformée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. C'est ça l'humilité. C'est être conscient de ma petite personne. C'est l'oubli de soi. Et plutôt l'élévation de l'autre. L'humilité, c'est quelque chose qui se tourne vers l'autre, hein, qui fait passer les intérêts de l'autre avant les siens. La douceur. Elle est impressionnante chez Christ. Je suis toujours à nouveau interpellé par l'attitude de Jésus alors qu'il fait face à des accusations. Et je pense qu'ils étaient pas tendres avec lui, à des mauvais traitements, injustes, d'ailleurs des faux témoignages, devant Pilate. Il a en face de lui des religieux hypocrites. Il est devant les soldats qui le frappent et qui le... Bon, bref. Et on découvre un silence, une douceur incroyable. Qu'est-ce que moi je ferais? Moi je rentrerais dedans, je défendrais mes droits. Hey, je suis un enfant de Dieu là! J'ai une valeur! C'est juste extraordinaire, cette douceur. Et on est au bénéfice de cela. Et ces attitudes-là devraient... être les nôtres les uns avec les autres. La patience! La patience de Jésus avec ses disciples. On est dans un monde de tout de suite. Tout doit changer vite. Du prêt-à-porter, hein. Du fast fashion. Alors qu'on sait que la vie chrétienne est une marche. Parfois une longue marche. Il y a beaucoup de patience, beaucoup de choses qui doivent prendre du temps. Avec le Seigneur. Et je trouve que Dieu, il est patient avec nous parce qu'il nous travaille à petites touches. Heureusement qu'il n'a pas dévoilé l'ampleur de ce qu'il devait transformer dans mon caractère le premier jour. Sinon, je serais parti dans l'autre sens. Mais il manifeste une patience avec nous incroyable. On a toujours besoin de revenir à cela, à cette grâce qui pardonne alors qu'on a chuté je ne sais combien de fois. Imaginez ce que nous vivrions en Église et ce que nous vivons en Église avec de telles qualités qui sont développées, qui sont vécues parce qu'on est habité, revêtu de Christ. On pourrait en dire encore beaucoup de choses. Quatrième élément que je relève, c'est pratiquons le pardon. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que c'est la caractéristique de notre Église? On se supporte. Comment ça, on se supporte? Viens voir notre église, on se supporte bien. C'est vrai que si vous mettez une centaine de personnes ensemble, il y a forcément, on est d'accord, des frottements. C'est obligatoire. On a des sensibilités différentes. On a des rythmes différents. On a des attentes différentes. On a des tempéraments qui sont différents. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Tu parles pas assez fort. La musique, c'est trop fort. On commence en retard, ou trop tôt, on ne laisse pas le temps de la communion fraternelle. Les enfants sont d'une indiscipline, incapables de rester en place, et les autres qui disent « waouh, toute cette vie, cette vitalité parmi nous ». on en rigole, mais plein d'occasions de frotter, de s'irriter les uns les autres, non? Alors le verbe utilisé dans se supporter, il y a l'idée d'endurance. Il y a l'idée de tenir bon dans la relation, de prendre sur soi pour ne pas diviser, pour ne pas créer de tension. Et c'est vrai que vivre dans l'Église, les uns à côté des autres, demande de la patience, de l'humilité, de la maturité aussi, pour reconnaître que peut-être il faut se taire. Il y a l'idée vraiment, je serre les dents. C'est pas toujours agréable, mais je prends sur moi. Vachement sympa, hein, comme perspective. Mais supporter, ça veut pas dire qu'on doit tout accepter. Je le disais déjà tout à l'heure. Tout sans discernement. Est-ce qu'on doit tout accepter jusqu'au retour de Christ? Bon, je sais, au retour de Christ, tout sera nivelé. Non. Il y a des limites dans la parole de Dieu. Je le disais tout à l'heure, hein, quand l'unité de l'Église est menacée, quand de fausses doctrines divisent, quand un comportement destructeur s'installe, il faut agir avec clarté et vérité. Si elle est mise à mal, on doit demander à la personne de partir. Je le disais tout à l'heure, c'est Tite 3 par exemple. J'ai été très interpellé au congrès où on a été avec Michel et d'autres la semaine passée, où le théologien Henri Blocher a parlé des plus grands dangers pour nos églises au regard du monde actuel dans lequel nous vivons. Et le premier point, c'était le relativisme. C'est de se dire « Ah, c'est pas très grave, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai, il y a un certain flou. » Non, l'Église a besoin de clarté et de vérité. Les fausses doctrines, c'est important, sont des points importants. On ne doit pas relativiser, on ne doit pas supporter tout sous prétexte qu'on est des enfants de Dieu, non. L'Évangile doit rester au centre, Christ doit rester au centre, et cette lettre, elle en est la démonstration de Paul. Je remarque qu'une manière de supporter une situation, c'est de prier. C'est vrai que dans la vie de l'Église, il y a beaucoup d'occasions où on pourrait être touché, blessé. Une parole mal reçue, une absence, une réaction sèche, un oubli, une blessure. Et la suite du texte nous appelle à quoi aussi ? À pardonner. Pratiquons le pardon. Même si je trouve que nous, on vit une période de la vie de l'Église qui est remarquable depuis quelques mois. Dans le passé, on a vécu parfois des situations qui n'étaient pas toujours faciles, plus complexes. Mais lorsqu'on se met devant le Christ, on réalise qu'on est fait de la même pâte, du même bois dur que le Seigneur a besoin de travailler. Alors Paul nous appelle donc à pardonner. Le pardon ne veut pas dire qu'on nie le mal. Mais pardonner, c'est remettre l'offense entre les mains de Dieu et refuser d'en faire un poison intérieur qu'on rumine. Dans la Bible, le pardon n'est jamais un pardon au rabais. C'est pas un « oui, c'est pas grave ». Non, parce que les choses parfois sont graves. Parfois, il y a des offenses qui ont besoin d'être réglées. Il est parfois nécessaire d'aller voir mon frère et ma sœur et de lui demander pardon ou de régler une situation. Mais Paul nous encourage à vivre le pardon. C'est libérateur. Parce que non seulement on a été peut-être touché une fois, mais le fait d'y repenser et d'y ruminer et d'y revenir, ça nous blesse encore une seconde, une deuxième, une troisième fois. On paye et ça nous touche. Et on est appelé à pardonner, à remettre cela à l'ultime juge. C'est lui qui va juger. Et d'ailleurs, quand il va juger, il va soit placer le péché de la personne sur Christ, soit il va placer le péché sur l'individu qui a rejeté Christ. Il n'y a pas 36 solutions. Et c'est ce qu'on a reçu en Christ, de se rappeler qu'on a été pardonné bien au-delà de ce que nous pourrions jamais pardonner entre nous. L'immensité de sa grâce, l'immensité de son pardon doit m'interpeller sur ma manière, sur ma réticence peut-être parfois, à pardonner la situation qui a été faite à mon égard. C'est vrai, je reconnais, le pardon est difficile. Mais on n'est pas appelé à pardonner parce que c'est facile. On n'est pas appelé à pardonner parce qu'on en a envie. On est appelé à pardonner parce que Christ nous a pardonné et me demande de le faire. Quand on a soi-même fait du tort, on peut être vrai et on peut aussi demander pardon et se repentir. Dans l'Église, on n'est pas d'abord guidé par nos émotions, mais par le cœur nouveau, touché par l'évangile que Dieu nous donne. Et ce cœur nouveau, qui a été pardonné, qui a été gracié et appelé à être la locomotive de nos réactions. Cinquième élément, aimons-nous par-dessus tout. Verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Là, il y a encore ce langage du vêtement. Hein. Se revêtir de Christ par-dessus tout. On a un Corinthiens 13 là en tête. Hein. Après avoir parlé de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, Paul nous rappelle, aimez-vous, vivez d'amour. Enfin, soyez revêtus d'amour. Alors, dans notre culture, aimer, ça semble évident, hein. Bien sûr, on doit s'aimer les uns les autres. Mais ici, la Bible parle d'un amour qui doit être revêtu comme quelque chose de nouveau, qui n'est pas en nous, mais qui est donné par Dieu en Jésus-Christ. C'est le ciment de nos relations. C'est du concret d'aimer. Parce que vous avez des visages à côté de vous, des personnes à côté de vous, assis sur la sèche à côté. C'est eux que le Seigneur vous a appelés à aimer. Par nous-mêmes, on n'arrive pas à aimer comme Dieu nous demande. C'est un amour qui se donne, hein, c'est un amour qui est sacrificiel, qui voit l'autre plus important, alors que on se voit toujours plus centré sur soi, toujours nous qui est le plus important, mes intérêts, mes réactions, mes attentes. Je reprends l'expression d'un prédicateur que j'ai écouté, j'ai un appétit vorace, je veux pour moi. Mais étant uni à Christ, je suis appelé à aimer, à refléter quelque chose d'autre. Et l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, on a la Pentecôte qui a été déversée dans nos vies. Et l'amour se décline par tout un tas de facettes qu'on a déjà entendues. Quel amour manifestons-nous ? C'est central. À quoi ça peut ressembler une église qui aime par-dessus tout ? Mais c'est une église qui accueille généreusement tous ceux qui sont différents. L'accueil, c'est parfois tellement difficile pour moi, notamment le dimanche matin où je suis déjà concentré, et je passe parfois à côté des personnes sans les saluer. C'est cette attention aux autres. C'est dans cette manière de se parler, de se respecter, de se servir. Je vois tellement de gens parfois qui papotent et qui n'ont même pas cette attitude de serviteur, de se considérer l'autre plus important et de l'écouter. Est-ce que c'est facile d'aller discuter à la fin du culte avec quelqu'un qui est différent de nous, qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt que nous? Ou est-ce qu'on évite certaines personnes? On peut s'interroger, hein. Est-ce qu'on prend des nouvelles les uns des autres? Est-ce qu'on prie pour les autres? De ceux qui sont peut-être avec qui on a moins d'affinité, avec qui on a plus de différences? Alors oui, on est reconnaissant. C'est ce qui est ressorti, hein, dans le travail sur la vision d'Église. On est reconnaissant de tout l'accueil qu'on a et qu'on vit et qu'on est bien accueilli. C'est un point fort. Mais soyons vigilants, aimons-nous. Soyons concrets. J'avance, hein, on pourrait dire beaucoup de choses. Avant-dernière encouragement, parce que nous sommes en Christ, laissons la paix de Christ régner. Que la paix de Christ habite en vous, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Quand la Bible parle de paix, elle parle pas simplement d'une sensation de zénitude, de quelque chose de vague, détaché de la réalité. Non, elle parle d'une paix entre Dieu et les hommes. La Bible dit que, initialement, on est dans une relation avec Dieu qui est, par nature, une relation conflictuelle. Dieu est en colère contre l'homme pécheur. Dieu est en colère contre toutes les formes de violence qui a lieu aujourd'hui, en France, dans le monde. Dieu est en colère contre les manifestations égoïstes. Il est en colère. Mais il est aussi à l'œuvre en rétablissant la relation avec les hommes, en faisant que sa colère et son amour se rejoignent, et celle-ci, elle est à la croix, et on le dit, c'est à la croix que tout cela a été traité. C'est à la croix que Dieu prend la colère, les fautes de chacun d'entre nous, et les place sur Dieu le Fils. Toutes ces violences, toutes ces guerres, toutes ces formes de méchanceté qui ont été faites et qui sont faites sur terre, tombent sur Jésus-Christ. Et c'est parce que cette colère tombe sur le Fils qu'il règle ce problème de la culpabilité et que nous sommes en paix. À la croix, le péché est traité. Tous ceux qui placent leur confiance en Christ dans la foi ont cette réconciliation avec Dieu, sont en paix, sont pardonnés. Désormais, on n'est plus ses ennemis, désormais, on n'est plus sous la colère, désormais, nous sommes ses enfants, désormais, nous faisons partie de son peuple, désormais, nous avons accès à cette paix qui est appelée à se vivre entre nous, avec lui, mais avec nous, avec les uns et les autres. Et c'est cette paix profonde liée à cette réparation en Christ qui doit se voir dans la manière dont on réagit les uns avec les autres. C'est une réalité concrète. Paul sait, hein, quand il dit cela, il sait qu'on vit pas dans un monde idéal. Il écrit à une église qui est réelle, hein, avec des tensions qui sont réelles, avec des faux enseignements, avec des fragilités, avec des différences. Mais il appelle l'église, il appelle les croyants à laisser la paix de Christ envahir, gouverner notre manière de vivre, de réfléchir et d'agir. L'église, c'est un rassemblement de personnes qui sont en paix. On a besoin de le comprendre et le méditer et de le rappeler. C'est une réalité qui est donnée. Dans l'Église, rien ne nous sépare. Vous voyez comment la boucle est bouclée chaque fois. Tout me rapproche de mon frère et de ma sœur. Et dernier élément, cultivons la reconnaissance. Verset 15, soyez reconnaissants. Je ne sais pas si Paul avait conscience que ce texte serait lu par des Français. Notre réputation de Français n'est plus à faire, on est des râleurs, toujours en train de voir ce qui manque, ce qui ne va pas. Je dois d'ailleurs reconnaître que je suis pas étranger à cette tendance, je suis bien français. Il m'arrive facilement d'être tiraillé par l'insatisfaction, par ces choses qui sont pas glorieuses, même si c'est brièvement. Mais la parole de Dieu nous appelle à une toute autre attitude, la reconnaissance. Au lieu de compter ce qui nous manque, ce qui ne va pas, nous sommes appelés à reconnaître tout ce que nous avons reçu. Imaginez-vous une église, c'est une exhortation, qui regarde d'abord les bénédictions reçues plutôt que tout ce qui manque. Une église qui regarde toutes les personnes qui la composent plutôt que de voir ces personnes qui manquent. Une église, au lieu de soupçonner, de critiquer, on apprend à remercier. Une église où on commence notre journée, non pas dans la plainte, mais dans la gratitude. Je pense que ça changerait pas mal de choses. Alors, on commence pas notre matinée avec la miricorée, hein, pardon l'expression, mais on a tout reçu. Je suis tellement reconnaissant de connaître Christ, d'être en paix avec lui, d'être habité par le Saint-Esprit, cette présence de Dieu dans nos vies, d'avoir le mouvement et l'aide, de pouvoir me tenir devant vous. Tellement reconnaissant de faire partie de cette église. Je suis reconnaissant d'être entouré de chacun de vous, et je le pense. Je suis tellement reconnaissant d'avoir cette garantie à vie. Moi, j'aime bien regarder quand j'achète un produit si c'est garanti 10 ans. Non, mais là, on est garanti à vie. C'est déposé sur votre compte personnel. Vous avez une sécurité, vous avez une assurance. Comment ne pas être reconnaissant? Il n'y a pas de date de péremption sur chacun d'entre nous, celui qui appartient à Christ. C'est beau, hein? Imaginons ce type d'attitude de reconnaissance dans l'Église. Ça transforme les relations. On ne peut pas s'empêcher, hein, de nous rappeler ce que la Bible présente. On a par exemple l'Exode, où le peuple a été libéré, où Dieu a fait des choses extraordinaires, comme quoi parfois ça suffit pas. Ils ont été libérés, ils ont vécu des miracles. Et puis à un moment, ils en ont eu marre, ils ont râlé. Le cœur humain peut tellement oublier la grâce, peut tellement oublier l'intervention de Dieu, peut tellement oublier les délivrances. Alors ces attitudes qui caractérisaient ma vie d'avant n'ont plus leur place. Je dois le reconnaître et c'est une lutte. Mais Paul souligne que nos relations, maintenant entre nous, devraient être marquées par de la reconnaissance. Je vous propose de nous arrêter là. Hein. C'est déjà suffisant pour nous ce matin, même en survolant rapidement. On voit le chemin que le Seigneur a à faire avec nous. Alors on se retrouve dimanche prochain pour parler du culte, de l'adoration. En particulier, j'aimerais simplement terminer en retenant ceci. L'Église, les relations les uns avec les autres est le terrain où Christ nous façonne, où Christ travaille. C'est là où nos différences vont se frotter, où nos limites vont apparaître. C'est là où Dieu va mettre en lumière des domaines qui ont encore besoin d'être travaillés en profondeur. On a besoin des uns des autres. Mais dans l'église, c'est là aussi où on va vivre, où on va goûter à l'amour, où on va goûter à la grâce, où on va goûter au pardon, qui vont devenir visibles. Parce que ce qui nous unit, c'est pas nos tempéraments, nos hobbies, nos sensibilités, nos affinités. Ce qui nous unit, c'est la personne de Christ. Et parce qu'on est en Christ, on est appelé à vivre différemment. Et on l'a entendu avec ces 7 exhortations, ces 7 facettes. Et pour cette semaine, j'aimerais vous laisser un travail un peu plus simple que de méditer sur ces 7 facettes. J'aimerais nous encourager, nous interroger avec l'aide du Saint-Esprit sur lequel de ces points le Seigneur a besoin de travailler cette semaine. Prenez-en un. Veut spécifiquement travailler. Quelle attitude, quelle réaction, peut-être quelle parole a besoin d'être corrigée, quelle relation, dans quel domaine j'ai peut-être besoin d'être vigilant cette semaine. Et rappelez-vous, sans Christ, tout changement est impossible. Vous n'y arriverez pas, mais avec Christ qui vit en vous, c'est possible. Là où le Seigneur pointe quelque chose, on peut lui dire, Seigneur, travaille, remplis-moi, je t'appartiens. Je sais que tu es à l'œuvre. Je suis en Christ. Et j'ai besoin que le Seigneur nous travaille ces choses-là pour le bien de nos relations les uns avec les autres.